Alors aujourd'hui, on est venu pour soutenir la ferme des Bouillons. Donc c'est pour ça qu'on a tous des jolies petites pancartes et on distribue des tracts ou la Gazette des Bouillons de manière passive, mais avec un grand sourire, en ouvrant nos bras pour que les gens viennent nous voir, et on les invite à venir à la table de presse pour signer la pétition et protéger ce joli lieu qu'est la ferme des Bouillons. On peut rencontrer des gens, on peut débattre et cultiver aussi en même temps. Et voilà.
On fait une action non violente pour sensibiliser la population de Rouen à la destruction, au projet de destruction de la ferme des Bouillons.
Le groupe immobilier Immochamp l'a racheté en janvier 2012 avec un permis de démolir en juillet. Et voilà, nous on la défend depuis déjà 4 mois avec une alternative de maraîchage, d'agriculture et donc de culture même dans tous les sens du terme. Donc culture de la terre et puis culture au sens large, c'est-à-dire aussi bien des actions, soit des scènes ouvertes qui réunissent plusieurs artistes, que ce soit de la poésie, du théâtre, du chant. Avec donc voilà un agenda culturel qui paraît tous les 2 mois dans notre gazette et des choses que vous pouvez découvrir sur le blog de la ferme des bouillons.blogspot.
Le chômage a fortement augmenté en France au mois de février. Plus de 30 000 demandeurs d'emploi supplémentaires ont été recensés, soit une hausse de 0,9% par rapport à janvier.
France Info, 26 mars 2014.
À la fin du mois de février, Pôle emploi a recensé plus de 3 347 000 chômeurs sans aucun travail en métropole. Si on ajoute les personnes qui ont une activité réduite, petit boulot ou temps partiel, on est proche des 5 millions de personnes.
Est-ce que vous pensez que les réformes sur le marché du travail ont été suffisantes ?
Non.
Pascal Lamy.
Je pense qu'elles ne sont pas suffisantes.
Qu'est-ce qu'il faut faire ?
LCP, 3 avril 2014.
Je pense qu'il faut aller davantage vers de la flexibilité et vers des boulots qui ne sont pas forcément payés au SMIC. Un petit boulot, c'est mieux que pas de boulot. Dans le coin d'où je suis en Normandie, je connais des gamins qui ont 15 ans et dont les parents n'ont jamais eu de boulot. Pour moi, ça, c'est le signe d'une gangrène. Une société où ceci peut se produire sans qu'il y ait la révolution, c'est vraiment très inquiétant.
Bonjour, vous écoutez Radio Campus Lille. Vous venez d'entendre un petit commentaire sur la ferme des Bouillons. On vous en parlera, ils vont venir dans la métropole le samedi 17 mai. Vous avez entendu aussi un extrait d'interview de Pascal Lamy. Voilà, vous écoutez.
Grand représentant de l'OMC.
Grand représentant de l'OMC.
Et du libéralisme mondial.
Et du libéralisme mondial qui a sa carte au PS,
oui.
Parti au pouvoir actuellement. Alors on va vous parler des bons calculs économiques, de leurs bons calculs économiques. Excusez-moi. Donc, autour des micros, Benoît Boussemard.
Oui, bonjour.
Bonjour. Et votre serviteur. Bah tiens, en introduction, on va parler de Bruxelles, hein, puisque ce sont bientôt les élections européennes. Un petit morceau.
On peut commencer par une petite introduction sur, par exemple, les salaires des membres de la Commission et des éminents représentants de Bruxelles, qui imposent, comme tout le monde le sait, des mesures tout à fait restrictives à nos bonnes populations qui vont bientôt voter. Donc il faudrait peut-être que ces bonnes populations sachent ce que gagnent ces braves gens, parce qu'ils sont très malheureux et ils veulent encore rendre les gens un peu plus malheureux.
C'est-à-dire qu'ils disent qu'on doit baisser nos salaires, c'est ça, pour être compétitif.
Pour être compétitif, il faut baisser les salaires. Le pacte va encore rajouter à ça, on y reviendra après sur le pacte, mais il faut quand même regarder un petit peu leurs salaires, parce que ce sont des gens misérables qui n'hésitent pas à avoir des salaires misérables. Par exemple, Monsieur Draghi, président de la Banque Centrale Européenne, il touche 31 177 euros par mois. Par mois.
31 000 par mois, oui.
Oui,
donc quand vous touchez ça, vous êtes dans les 10% des Français
au-delà.
On est bien au-delà des 10% des Français les plus riches,
je veux dire,
ceux qui ont les plus gros revenus.
Alors le président du Conseil européen, Monsieur Herman Van Rompuy, et Joël Barroso, celui qui dit qu'il faut toujours aller plus loin sur les restrictions, les budgets stricts, etc. Bon, ces braves gens, ils sont qu'à 26 770 euros par mois. Donc eux, ils ne s'appliquent pas trop les règles qu'ils veulent appliquer aux autres.
Donc finalement, c'est le banquier qui touche le plus dans la bande.
Ah oui, c'est
bien. Marrant. Je croyais que c'était Barroso. Moi,
non, ce n'est pas Barroso du tout. C'est plutôt le banquier, parce que lui, il tient les cordons de la bourse et... un financier, pour être sérieux, il doit être un peu crédible auprès de ses potes. Donc, il doit gagner quand même un peu plus que des membres anciens politiques qui se sont reconvertis dans la commission et qui sont chargés de faire tout ça. Alors, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, lui, il touche 24 793, encore un peu moins. Hein, tout ça, ça vient du Huffington Post qui donne toutes ces infos. Très bonnes infos, on regarde pas assez. Je préconise à tout le monde de regarder un petit peu le Huffington Post. Les articles sont généralement très très bien faits. Alors le vice-président, les vice-présidents, ils sont 7, chacun 23 875, ok ? Bon, donc on est sur quelque chose qui est quand même pas mal. À côté, notre président de la République, hein, il est qu'à 14 910. Quel malheur !
Oui, mais bon,
c'est petit petit. C'est petit petit.
C'est mal payé, un président
c'est
de la République.
C'est mal payé.
Ça touche moins qu'un pharmacien, ouais, ou qu'un opticien, absolument. Si mes souvenirs sont exacts.
Et Valls, il ne touche que 17 000 euros, 0,16, pour être précis, par mois. Donc Angela Merkel, quand même un peu mieux, hein, 17 280 euros. Donc, bon.
Voilà. Mais David, un effort, monsieur Manuel Valls.
Et David Cameron, un petit peu mieux, un petit peu moins que le président Hollande, 14 443 euros.
Et comment il fait pour se loger à Londres?
Ben, j'en sais rien. Il doit se loger quelque part où ça doit être gratuit, parce que ça, c'est un peu
14 000.
Et enfin, nos députés européens qu'on va élire, ben, ils sont pas si malheureux que ça, puisqu'ils touchent 7 957 euros bruts mensuels. On oui, comprend alors. Pourquoi il y a de la compétition au niveau des postes qui sont offerts à tout ça.
Oui, tu parles de salaire, mais il n'y a pas que les salaires. Ils ont une équipe à entretenir.
Ah bah bien évidemment. Donc il y a des frais à côté qui sont accordés. Voilà. Donc on peut pas vivre avec ça. Mon monsieur, 7 900 euros, 8 000 euros par mois, comment veux-tu que je vive avec ça? C'est pas possible.
Il y a
donc,
des pitas, des magasins de pitas à Bruxelles.
Voilà, c'est pas cher. Ils sont pas chers du tout. C'est quand même des gens qui sont très très malheureux. Salaire moyen en France, 2410 euros, pour donner une petite idée. Tout compris, hein, première petite chose par rapport à notre Europe qu'on va voter, vous allez voter pour des gens qui sont mal payés, bien évidemment, à côté du bon peuple pour lequel ils se décarcassent jour après jour, pour lequel ils prennent des mesures de restriction de plus en plus dures, etc. Et on va y revenir. Alors, par rapport à ce que disait notre ami Pascal Lamy, parce qu'il faut quand même appeler...
L'ami.
Donc l'ami. Lui, il nous avait promis l'ami, il a donné l'ami. Hein, donc le camarade l'ami en question, puisque c'est un camarade, il est au PS après tout. Hein, donc c'est un très bon camarade pour les riches, très mauvais camarade pour les pauvres quand même, parce que quand on regarde de près les résultats de la politique qui a été menée en Europe, on a quand même un taux de chômage qui tourne autour de 10,4% pour l'ensemble de l'Union européenne, prévision 2015.
Et ça, c'est les chiffres officiels.
Chiffres officiels de la Commission. Hein. Ouais. Non, je ne donne que des chiffres officiels ici.
Oui,
On est sur de l'officiel de chez officiel. On est en 2013 à 10,9, donc il y aurait une légère amélioration, une légère baisse du taux de chômage en Europe. On passerait de 10,9 en 2013 à 10,4. Je crois qu'effectivement, c'est une douce plaisanterie de dire que maintenant, il faut baisser les salaires pour permettre à des jeunes qui n'ont jamais travaillé de gagner la moitié d'un SMIC. Qu'est-ce qu'il veut faire, M. Pascal Lamy? Mais je vais lui verser ça chaque mois et il va voir comment on va vivre avec ça. Parce que c'est des gens qui ne se rendent même pas compte de ce qu'ils racontent. Parce que vous allez avoir un boulot, mais le boulot, il est où? Il est créé par qui? 10% de la population européenne au chômage. 10%. Il va les trouver où, les jobs? Les entreprises qui promettent de créer des emplois. Depuis que je suis économiste, j'ai toujours entendu ça. Donc ça fait 40 ans, bientôt, que j'entends toujours le chômage. Vous inquiétez pas, il faut nous laisser faire nos profits. Nos profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain. Sauf que l'après-demain, on attend toujours après. Et donc on est sur un système où effectivement l'Europe n'a absolument pas résolu globalement ce problème-là. Il n'y a que quelques pays qui ont des taux de chômage très faibles. Bon, Luxembourg bien sûr, mais bon, c'est quelque chose de très spécial.
L'ex-premier ministre du Luxembourg, un paradis fiscal assez célèbre, se présente comme président de la Commission européenne.
Ouais, mais même là ça va un peu mal, hein, parce que le taux de chômage au Luxembourg, il était à 4-6% en 2010 et les prévisions le mettent à 5-9%. En 2015.
Oh, si même le Luxembourg est
touché. Même le Luxembourg serait touché, je ne sais pas si tu vois. Donc, l'Allemagne, elle serait à un taux de chômage de 5,1%. Donc, tout va bien pour l'Allemagne. Donc, il n'y a pas trop de soucis pour elle. Par contre, la France, 2015, Je ne sais pas si les prévisions tiennent compte du pacte ou pas, puisque là, il y a encore pas mal de cadeaux fiscaux. Quand on regarde la France, le taux de chômage qui est actuellement en 12,2 passerait à 12,6 en 2014. Ils n'ont pas les mêmes chiffres qu'Hollande, manifestement. Et à 12,4 encore pour 2015. Donc, je ne sais pas s'il a bien fait de dire hier qu'il ne se représenterait pas s'il échouait sur le chômage, parce qu'il est mal parti pour avoir le succès dans ce domaine-là. Tout au moins, c'est la Commission qui le dit, hein, ce n'est pas moi. Donc, alors, ça sera peut-être beaucoup mieux encore en 2017 et 2016 et 2017. Mais bon, vu la manière dont ça part... bon, il peut compter quand même, effectivement, sur un taux de croissance un peu meilleur. Hein. Donc, je reviendrai après sur les taux de croissance. Mais déjà là, avoir un discours qui consiste à dire, comme l'ami, qu'il suffit de baisser les salaires encore moins que moi pour créer des emplois, je veux dire, c'est une idiotie sans nom. Si, c'est pas une idiotie, c'est quelqu'un qui est très engagé du côté libéral, même pas social-démocrate, c'est social-libéral, et le social-libéralisme accepte pratiquement cette mondialisation qui nous met en concurrence avec les plus bas salaires du monde. Et la défend.
Je veux dire, il la défend, il la met
absolument,
en pratique.
Et il la met en pratique.
Il fait tout ce qu'il faut pour que...
Absolument. Les Grecs, on savent quelque chose. Je veux dire, quand on regarde les évolutions de pouvoir d'achat des gens, c'est clair que vous avez... Dans l'ensemble des pays qui ont été touchés par la crise, l'Espagne, l'Italie...
Tous les pays européens.
Mais surtout la Grèce et, par exemple, l'Irlande, ont des niveaux de vie qui ont été réduits très, très fortement. Mm-hmm. Personne ne le dit, mais déjà donné les chiffres. Ils sont évidents.
Finalement, c'est curieux parce que tous les mois, tous les jours, toutes les semaines, on entend parler des résultats financiers des entreprises, du cours de la bourse. On n'entend pas parler des licenciements. On n'entend pas parler des baisses de niveau de vie, des suicides, des licenciés,
non, mais
ou
ça,
d'autres,
c'est peanuts,
des accidents du travail. Il y a pas mal de morts en accidents du travail. On n'entend jamais parler.
On n'entend pas parler de ça puisque ça n'existe pas.
Ça n'existe pas. Ah bon.
Donc la presse ne reprend que les choses, que les trains qui arrivent à l'heure. Elle ne prend pas les trains qui arrivent en retard. Et il y a beaucoup de trains qui arrivent en retard en ce moment. Donc on ne sait plus très bien parler effectivement de l'évolution du chômage. C'est quand même des chiffres qui sont terribles. L'évolution du chômage au niveau européen, quand même, on était à 8,9 hein, dans les années, fin des années 99, début des années 2000. 8,9, on est passé à 10,4. 10,4, donc 2,5 de plus.
On a transféré nos emplois à l'étranger, en Chine, en Pologne.
Et alors qu'il y a des pays comme dans cette Union européenne, comme la Slovaquie avec des bas salaires, il y a la Hongrie, il y a la Roumanie, etc. La Tchéquie, etc. Donc même ces bas salaires-là, en Tchéquie par exemple, le taux de chômage pour la Tchéquie, on va regarder ça tout de suite, on est à 6,6. Ils étaient à 6,6, ils étaient à 4,7 avant de rentrer dans l'Union européenne. OK. Bon, la Pologne, elle était à 12,2 au début. Ils en sont toujours à 10,1. Donc la Pologne n'a pas véritablement gagné les emplois. Ils avaient même baissé jusqu'à 8,1 en 2009. Donc la crise affecte tout le monde. Et la crise, elle est financière. Et c'est les amis de Monsieur Lamy qui ont engendré cette crise financière. On ne parle jamais des banquiers, mais les banquiers, ils sont bien là.
– Monsieur Lamy, bon, après, il y a eu Jacques Delors qui a fait beaucoup.
– Absolument.
Bonjour, Madame Aubry.
– Absolument.
– Transmettez nos voeux à votre papa.
– Absolument. Et donc, ils ont été très, très au fait quand ils nous ont imposé de force le traité constitutionnel qu'on n'avait pas voté. Donc, je veux dire là que aussi bien l'UMP que le Parti socialiste ont bien fait les choses pour que ce traité constitutionnel qu'on avait refusé soit appliqué. Et on s'étonne maintenant que ça s'applique. Les financiers, on est en train de nous dire, mais regardez, juste avant les élections, comme par hasard, on est en train de nous dire, mais on va enfin appliquer la taxe Tobin. Oh, quel malheur! Ça va être très, très, très cher. Ça va coûter très, très cher aux entreprises, ce truc-là. Et en plus,
Ça m'étonnerait. Il y a des particuliers qui la paieront. On va voir.
Et après, on est en train de nous dire, mais regardez, on est en train de mettre des règles sur la finance. C'est une douce plaisanterie aussi, ouais, ça. Donc, les règles de la finance, ils continuent bien comme avant. Je veux dire, on voit des arnaques de tous les côtés. Et ça continue. D'abord, la bourse, elle a bien monté. Quand on voit, effectivement, la bourse française, on est à plus de 4700 points maintenant. La montée en flèche de la bourse fait que, côté finance, ça marche très bien. Avec des grands copains, effectivement, à M. Hollande, M. Valls, etc., M. Montebourg, qui se décarcasse pour défendre Bouygues dans son histoire avec Numéricable,
Valeurs sûres.
Valeurs sûres. Donc, bon, et quand on passe après à l'histoire d'Alstom, bah, monsieur Bouygues, qui est le principal actionnaire d'Alstom, il dit, attendez...
Il y a besoin d'argent, monsieur Bouygues.
Il y a besoin de beaucoup d'argent, effectivement, monsieur Bouygues, pour pouvoir verser encore plus de dividendes qu'avant, etc. etc. Donc, on est dans un système où c'est l'argent qui définit les options et pas l'inverse. Donc, excusez-moi, mais les taux de chômage qui sont là... Si on pouvait encore un peu baisser les salaires, ça augmenterait encore davantage les profits. Le très bon ouvrage de Piketty, d'ailleurs, qui fait un succès même aux États-Unis.
Mais pourquoi pourquoi il y a un tel succès, d'après toi ?
Un tel succès, tout simplement, parce qu'il donne quelque chose qui est important sur le capital du 21e siècle, à savoir que les inégalités sont de plus en plus importantes. Et donc, il avait fait son travail de thèse il y a déjà 20 ans là-dessus, sur la France. Et il a élargi la totalité de ses investigations avec une équipe qu'il mène avec ces mêmes méthodologies et qui prouve que l'ensemble du capitalisme fonctionne comme ça. C'est-à-dire que aussi bien les autres pays européens que les États-Unis, etc., sont sur des systèmes de plus en plus inégalitaires. Et cette répartition, effectivement, entre les profits et les salaires, fait qu'il risque d'y avoir une explosion sociale. Donc lui, il n'est pas libéral, il n'est pas marxiste du tout. C'est-à-dire que son approche n'est pas marxiste, ça c'est clair. Et donc il peut être admis aux États-Unis comme étant un économiste sérieux, et son travail est effectivement particulièrement sérieux. Je veux dire, si on voulait faire une analyse factuelle des méfaits du capitalisme au niveau mondial, il faut lire ce livre.
D'accord.
C'est un gros pavé, il fait 700 pages à peu près, mais il est là depuis longtemps en France. Moi, je l'ai parcouru, c'est un très bon ouvrage. Donc, ceci étant sur l'analyse même, c'est une analyse qui reste sur un côté encore un peu superficiel des choses, parce qu'il ne va pas au fond, c'est-à-dire l'exploitation et comment on peut résoudre ce système d'exploitation au niveau mondial. On n'est pas sur un système qui est arrivé là, comme ça, tombé du ciel, je veux dire. Donc, il y a bien les rapports de force qui se nouent. Il y a bien le fait que dans les années 70-80, le monde s'est ouvert grâce à Monsieur Lamy. Monsieur Lamy a ouvert l'Europe, et pas seulement l'Europe, mais l'ensemble des pays au niveau mondial, aux vertus du commerce international. Les plus grandes réformes d'ouverture au monde dans le domaine des échanges, c'est Monsieur Lamy qui les a faites quand il était patron de l'OMC.
Membre du PS, comme DSK.
Comme DSK, etc. Donc, M. Lamy a bien travaillé pour l'ouverture des échanges. Et toute cette politique d'ouverture des échanges, elle conduisait en fait à une seule chose. Comme le coût du travail devenait de plus en plus relativement trop important pour les anciens pays industrialisés, et que la machine grippait un peu, parce que les profits ils étaient encore trop stables par rapport aux coûts salariaux, il fallait bien ouvrir. S'il fallait ouvrir, le début s'était fait par les multinationales elles-mêmes. Elles ont délocalisé, etc. Sauf que quand les multinationales délocalisent, elles délocalisent dans des pays à bas coût. Et donc, bien entendu, on commence déjà à mettre en concurrence les salariés des pays développés avec les pays dans lesquels les multinationales ont installé leurs filiales. Tant que c'était ça, ça allait à peu près. C'est-à-dire que la mondialisation n'avait pas encore joué un impact. Mais... ce que n'explique pas par rapport à ça Piketty, justement, c'est le problème suivant. C'est-à-dire que la multinationalisation, elle suppose que le rapport de force entre les pays du Nord et du Sud ne bouge pas. Or, ce rapport a bougé parce que les pays du Sud sont aussi intelligents que nous. Donc ils se sont bien aperçus que les multinationales travaillaient que pour elles et pas pour le pays. C'est-à-dire qu'ils exploitaient purement leur main-d'œuvre et c'était absolument pas, même marginalement, pris en compte pour leur population. Donc quand un pays comme la Chine rentre dans l'OMC, et c'est l'ami qui l'a fait rentrer dans l'OMC, on est dans un système où, effectivement, là, la Chine dit « mais il n'y a aucune raison que moi, je favorise les multinationales ». Donc les multinationales ont été bien encadrées. On ne pouvait pas avoir la majorité du capital dans une société chinoise, etc. Et donc une partie des bénéfices de la mondialisation s'est faite au profit de la Chine et des Chinois. L'autre partie s'est faite en notre faveur, puisqu'on a pu acheter des produits à bas prix, comme le textile, etc. Sinon que, quand la Chine devenait un petit peu trop gourmande, on passait au Bangladesh avec les résultats qu'on connaît, avec les sociétés.
Pour le textile, ouais.
Par exemple, pour le textile, etc. Par exemple. Et cette partie-là est une partie qui montre bien que la mondialisation avec l'ouverture totale fait qu'on doit tendre vers une baisse des salaires et une uniformisation des salaires au niveau mondial. Or, elle ne peut se faire que par le bas. Sauf avec un minimum de protection. Or, l'Europe, puisqu'on est toujours dans le cadre européen, n'offre absolument pas ce type de protection. Il devrait y avoir une protection minimale, je ne dis pas dans chaque pays, ça c'est de la bêtise. On ne le fera plus, on ne pourra plus revenir en arrière là-dessus. Mais bien au moins au niveau européen, comme le font d'ailleurs les États-Unis. Et qui est-ce qui négocie tout ça en Europe ? C'est nos fameux commissaires dont on parlait tout à l'heure.
notamment notre commissaire aux échanges qui est en train de négocier avec les États-Unis pour une ouverture totale des échanges avec les États-Unis, notamment dans le domaine agricole, etc. Alors là, nos paysans, ils vont pas comprendre leur bonheur, hein, parce que la PAC à côté de ça, c'était rien. Donc, quand l'ouverture se fera avec les États-Unis sur les problèmes d'échange agricole, ils auront que leurs yeux pour pleurer. D'ailleurs, ils sont en train de passer par un biais, puisque là, il y a des résistances fortes, notamment de l'Europe et de la France. Parce que le commissaire européen, il voudrait boucler tout ça avant de partir, lui. Hein. Sa commission, elle est finie dans quelques semaines. Donc après, d'accord, il y aura une nouvelle commission, il y aura un nouveau négociateur. Il est en train de passer par la partie brésilienne et la partie Amérique latine. Mais il y a des échanges entre les États-Unis et l'Amérique latine. Donc si on signe avant avec l'Amérique latine, on risque fort d'avoir des produits américains qui passent via l'Amérique latine et qui viennent ensuite en Europe directo, sans aucune contrepartie de quoi que ce soit. Et on dira, on aide au développement du Brésil. Sauf que, par exemple, le Brésil, il y aura peut-être un feuillet fiscal, douanier, etc., point barre, et ça sera des produits américains, avec tout ce que ça comporte, comme OGM, comme machin, etc. Donc, notre agriculture, je ne sais pas ce qui va se passer si on signe ce genre de truc très vite, mais ça sera pas triste pour les agriculteurs français. Et ce qu'on est en train de manger comme mauvaise bouffe, qui avait été bien encouragée par notre grande distribution, ça sera rien à côté de ce qu'on aura après. Hein. Donc là, on est sur un système où, effectivement, ces commissaires qui ne répondent de rien devant personne, sont en train de négocier des choses sans même que le Parlement européen ait quoi que ce soit à dire.
Et de toute façon, il n'y aura rien à dire.
Et de toute façon, il n'y aura rien à dire, puisque ce sont encore les intérêts des consommateurs. Ils vont payer encore moins cher.
Soi-disant. Les prix, je n'ai jamais trop vu baisser.
Ah, ouais, mais c'est parce que tu ne regardes pas tout ce qu'il y a à côté.
Je ne dois pas regarder avec des bonnes lunettes.
Voilà, tu ne regardes pas ce qu'il y a à côté, avec notamment
les... Que moi, je regarde les
trois produits pour deux, etc., etc.
Non, je regarde l'étiquette qu'il y a sur le rayon. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui regardent le prix d'achat au fournisseur, mais je fais pas partie de cette catégorie-là.
D'accord.
Moi. Je suis un bête client qui paye, moi.
Toi, tu payes, moi je paye aussi.
Voilà,
je suis pas, mais après, seul. Je regarde quand même les bénéfices des multinationales qui sont derrière et qui se rachètent à qui mieux, comme on sont en train de le faire General Electric ou Siemens avec nos amis. Hein, bon. Donc, sur ces choses-là, on n'a pas de maîtrise. Les salariés qui sont chez Alstom dans l'est de la France, bah, eux, ils regardent ça de très loin. On leur demande même pas leur avis, d'ailleurs. Ils seront vendus à Siemens ou ils seront vendus à General Electric. Bon, ah bon, d'accord. Merci. Je dis merci à qui? Bah, je dis merci à ceux qui négocient pour moi, Monsieur Bouygues, par exemple. Donc, super.
Donc une petite pause,
ouais.
Ou si tu veux
conclure. Non, on continuera un petit peu après là-dessus sur l'Europe, parce que c'est important l'Europe avant les élections, pour savoir vraiment qu'il faut voter, effectivement. Moi, je pense fondamentalement qu'il faut aller voter, mais il ne faut pas voter ni pour la droite et l'extrême droite, ni pour le Parti Socialiste, mais qu'il y a à gauche de quoi faire, parce qu'il y a des représentants à gauche qui préconise effectivement une véritable Europe sociale, et il faut aller sur cette Europe sociale-là si on veut vraiment changer l'Europe. L'Europe, c'est extrêmement important.
Alors moi je suis pas... Bon, on en discutera peut-être après. Je suis pas du tout partisan d'aller voter. De toute façon, il n'y a aucune démocratie.
C'est, bah, on discutera.
C'est justifier l'Europe.
On discutera.
Alors, ouais. Bruxelles. La Belgique, vous connaissez. Bah, là, une petite chanson de Claude Semal qui s'appelle d'ailleurs « Noble Belgique ». Bon, un résumé de l'histoire de la Belgique. Très, très intéressant.
L'année passée quand j'étais môme, chantais mon plat pays petit. Mais plus je regarde l'atomium et plus il me coupe l'appétit. Avec ses neuf poulets immondes, plus ravagés que la tour de Pise. J'habite dans la seule ville au monde dont le fétiche soit mais qui pisse. Sous l'atomium il y a les Belges. Belge, ça ne rime avec rien. Pour changer d'air, je change d'auberge, voir au moins s'il y a des terriens. Noble Belgique, mère d'eau chérie, je te laisse ton crachet asthmatique et ton microclimat pourri. Ils sont si fiers de leur boutique, de leurs comptoirs en formica, que les bouchers font de la politique pour se payer la Costa Blanca. Y a plus que des croûtes sur leur fromage, des musées, des ruines, des huissiers. des hospices, des bureaux de chômage, dans la patrie des épiciers. Depuis 20 ans, tous les 6 mois, ils votent pour les mêmes abrutis. Mais celui qui préfère, c'est le roi, parce qu'il est bilingue et gentil. Noble Belgique, merdo chérie, je te laisse ta frontière linguistique et les crassiers tes aciéries. Dans la patrie des centre-avant, la gauche, la droite s'est dépassée. Aujourd'hui quand on se fait baiser, c'est par derrière ou par devant. Devant il y a les jeunes gens modernes, vieux comme la mode en plus ridée, qui ont si peur qu'on voit leurs cernes, qui se mettent du gel dans les idées. Derrière il y a les vieux cons modèles, la dernière fois qu'ils ont pensé, ils lisaient les tracts de grêle assis sur le banc d'un lycée. Noble Belgique, merdeau chéri, je te laisse ton misère nostalgique, le démo et ses conneries. Ils font du jogging le samedi dans le parking du Brico Center, du coffre ouvert à leur caddie dans la patrie des supporters. Avec leurs drapeaux et leurs chants, leurs écharpes blanches et brunes, du Heysel jusqu'à Francorchamps, ils s'écrasent au pied des tribunes. Ils fatigués d'avoir gueulé, d'avoir sucé leurs munitions, ils s'endorment devant la télé pendant l'heure des informations. Noble Belgique, merdeau chérie, je te laisse tes schtroumpfs olympiques, aux œufs d'Anvers et Walibi. Dans la patrie d'Achille Chavez, il n'y a plus d'art sans mécénat. On joue Shakespeare dans les travées, sponsorisé par Savena. Ils font la fête deux fois par an, au Nouvel An, au Carnaval. Ils vont mâcher chez leurs parents pour qu'ils rigolent, pour qu'ils avalent. Dans la patrie des tirs la gueule, pour qu'ils rigolent, faut qu'ils soient sous. Pour qu'il soit sous, faut qu'il dégueule Chimère, Rochefort et Marais dessous. Noble Belgique, merlot chéri, je te laisse ton bonheur en barrique dans ces canards et pot-pourris. De tous les peuples de la Gaule, les Belges avoc sont les plus braves. Il y a 2000 ans que César y gaule en traversant leur champ de betterave. Depuis l'ère des Pithécanthropes, l'Autriche, la France, la Prusse, l'Espagne, tous les culs couronnés d'Europe violent leurs filles et leurs campagnes. Dans la patrie des collabos, depuis que l'OTAN niche à Florène, il n'y a plus que la Suisse et Monaco qui n'aient pas occupé les Ardennes. Noble Belgique, merdeau chérie, je te laisse tes cartines bucoliques, ta petite gaïole et le canari. Dans la patrie du 11 novembre, on ne vous aime vraiment que mort. Ce qu'on aime dans le feu, c'est la cendre. Ce qu'on chante dans l'amour, c'est le remords. Chanson, vous avez dit chanson. On va me servir Brel ou ses filles, avec une paille et deux glaçons, comme on sert la bière aux Antilles. Au lieu de vous congratuler parce qu'il est né sur votre banquise, vous feriez mieux de vous demander pourquoi il est mort aux Marquises. Noble Belgique, merdeau chéri, je te laisse les plumes d'autruche des Gilles plantées dans le cul de tes terries. Ta petite gaïole et le canari dansent des canards et pot pourri. Le Vémo et ses conneries, le zoo d'Anvers et Walibi, et les grassiers tes aciéries et ton microclimat pourri.
Donc c'était Claude Semal, vous écoutez Radio Campus Lille. Claude Semal, Noble Belgique. On comprend mieux pourquoi et comment le siège de l'Union Européenne s'est installé à Bruxelles, même s'il y a un petit morceau à Strasbourg, un symbole. Alors on a commencé l'émission avec un document sonore à propos de la ferme des Bouillons. Écoutez, le 17 mai à 13h30, il y aura une petite balade à faire. Alors la balade, elle commence à l'arrêt de tram hôpital Prouveau à Roubaix. Hein, c'est une balade Roubaix-Néchin, le pays des exilés fiscaux. ou du moins des boîtes aux lettres fiscales.
Ouais.
Donc ça commence devant le siège de la société. C'est le siège de la société Auchan France, si mes souvenirs sont
exacts. Non. C'est le siège de l'association familiale
Meunier. L'AFM, le siège c'est, de l'AFM.
De ce qu'on appelle maintenant le groupe Meunier, j'espère.
Voilà. Le siège de l'AFM. Donc devant le siège de l'AFM, c'est, comment dire... à côté de l'arrêt du tram hôpital Prouvé.
Bah, on ne peut pas le rater, le siège. Hein. C'est le grand bâtiment qui est en forme de demi-cercle.
Voilà, c'est ça.
Et qui est juste à la fin du Beaujardin.
Et la photographie est dans l'agenda de Radio Campus Lille. Voilà. Vous connectez www.campuslille.com. Donc, une petite balade. Donc, à l'appel de quatre collectifs en lutte contre des projets immobiliers d'Auchan, Association de protection de la ferme des Bouillons, Collectif pour le Triangle de Gonesse, SPLF 45, Collectif Voguette 80, aller faire une balade contre le bétonnage des terres agricoles, contre la surconsommation et le gaspillage des ressources naturelles et contre l'exil fiscal.
Absolument. Et donc là, on peut conforter ça. C'est la même chose pour Casino, c'est la même chose pour Carrefour, etc. Sinon qu'eux, ils ont été beaucoup moins gourmands peut-être en terrain que d'autres, mais généralement, quand on regarde les grandes surfaces qui sont installées dans les extérieurs des villes, puisque c'était là qu'on avait les terrains les moins chers au départ, on voit bien la catastrophe que ça fait en termes d'utilisation de terres agricoles, et notamment dans des zones qui sont très riches.
Et j'ajoute que des nouveaux magasins n'augmenteront aucunement les ventes,
puisqu'il faut
des sous pour acheter.
Absolument.
Alors peut-être peut-on leur suggérer de payer un peu mieux leurs employés, par exemple,
à la
société Auchan.
Absolument.
Comme ça, leurs ventes augmenteront. Voilà, donc c'était un petit aparté. Alors, à citer aussi, on en a parlé, puis après je te repasse la parole.
Ouais, Benoît. Non, vas-y.
Donc, dans le ciné mensuel de ce mois-ci, qui vient de sortir, n'hésitez pas à l'acheter dans vos librairies, un excellent article de Suzanne Georges, « Ce qui nous menace », c'est le Lehman Brothers puissance 10. Donc, de toute façon, la bourse, elle flambe. Donc, on est reparti vers un nouveau crack boursier. Quasiment rien n'a été corrigé au niveau de la spéculation.
Au niveau de la spéculation,
ça spécule à mort, donc ça va se recasser la gueule.
Ça continue tranquillement, voilà. Puisque là, le profit, on disait, la masse de profit donc, a fortement augmenté dans le monde avec l'internationalisation et la mondialisation. Le problème, c'est que des gens comme Piketty, etc., ne comprennent pas que le capitalisme est fondé sur l'antagonisme entre le capital et le travail. Et que l'antagonisme entre le capital et le travail porte sur la force de travail. Et la force de travail, c'est quoi? C'est la différence entre ce que vous payez cette force de travail et ce qu'elle vous permet de gagner en termes de valeur. La différence entre les deux, c'est ce que Marx appelle la plus-value. Mais la plus-value, elle prend différentes formes. Elle peut prendre la forme d'un profit industriel, elle peut prendre la forme d'un profit financier, etc. Mais le total qui est dégagé par l'opposition entre le capital et le travail, c'est la plus-value. Or, il y avait effectivement, depuis la fin des années 60 jusqu'aux années 1980, une limite absolue à ça, c'était le nombre de travailleurs qu'on pouvait exploiter dans les anciens pays. Et donc, ce qu'il fallait impérativement au capitalisme pour continuer à survivre face à la baisse qui se produisait de leurs profits par rapport aux salaires, puisqu'il y avait eu un rééquilibrage des salaires-profits, hein. On était à 80% pour les salaires et à 20% pour les profits. Et ce que montre Piketty, c'est justement qu'on est repassé à 70% pour les salaires et à 30% pour les profits, mais au niveau mondial cette fois-ci, et pas simplement au niveau des sociétés. Donc, ce qu'il fallait faire, c'était renouveler la capacité à faire des profits. Or, la seule manière, c'est de mettre en concurrence la force de travail. Or, la force de travail ne pouvait être mise en concurrence que par l'ouverture. Et donc, M. Lamy a mis en œuvre cette ouverture mondiale avec l'OMC, justement. Et donc, ce qu'on a fait là, c'est ouvrir une force de travail, mais en termes d'exploitation du travail par les pays eux-mêmes. C'est-à-dire qu'avant, quand une multinationale avait une filiale, elle exploitait une toute petite partie de la population. Ce n'était pas la partie totale de la population qui était mise au travail sous les formes capitalistes. De même qu'à la révolution industrielle en Europe, il y avait toute une partie de la population qui était encore une population paysanne et qui n'était pas exploitée par les industriels et par le commerce capitaliste comme il l'était maintenant. Donc on a bien vu, par exemple, jusque la guerre 14 en France et en Europe, plus précisément, on était encore avec une population essentiellement rurale. Donc il n'était pas encore appréhendé et happé par l'exploitation capitaliste au sens strict. Donc tout ça, c'était fait par l'industrialisation et par l'émergence des grands groupes, des grandes firmes multinationales avec la concentration, etc. On en était arrivé exactement au même niveau à la fin des années 70-80 pour l'espace développé. Et donc il fallait que le capitalisme se trouve de nouvelles forces de travail à exploiter.
les multinationales limitaient ça à leurs petits précarés. Ce qui était important, notamment par exemple pour des distributeurs, c'était d'avoir des primes de moins en moins élevées pour avoir une population à payer de moins en moins. On augmentait en même temps le pouvoir d'achat et on avait des prix de plus en plus bas. La seule manière de faire ça, c'est d'ouvrir aux capitalistes des espaces d'exploitation du travail. Et les espaces d'exploitation du travail, c'est ça la mondialisation. Donc quand d'un seul coup, vous avez des centaines de millions de Chinois qui se trouvent exploités par un pays, dans un pays dit communiste, sous une forme capitaliste, ça, c'est un nouveau champ d'exploitation qui s'ouvre avec une plus-value maximum, puisque là, personne ne râle, je veux dire. Donc on est dans un système où on est exploité à fond, et puis on a le droit que de se taire. On donne quelques miettes, et on permet aux grandes firmes chinoises, qui sont liées plus ou moins avec le pouvoir, de se faire énormément de profits, et de faire faire des profits à l'ensemble de la planète, via les prix qui sont de plus en plus bas, et qu'on vend aux pays développés. Donc ça, c'est quelque chose de très différent de la multinationalisation des firmes telle qu'elle s'est passée dans les années 70, 80, 90. La multinationalisation des firmes, c'était une exploitation du travail limitée dans le cadre mondial. L'ouverture fondamentale qui a eu lieu dans l'évolution du capitalisme, et pour comprendre justement cette ouverture à nouvelles forces de travail mondialisées cette fois-ci, c'est ça. C'est l'AMI et consorts qui ont permis, via le commerce international, d'ouvrir toutes les frontières. Et à ce moment-là, il n'y avait plus que les firmes multinationales qui agissaient, tout le monde, et y compris les États qui offraient leur main-d'œuvre à qui mieux, à ceux qui voulaient bien l'exploiter tranquillement, et eux y compris. C'est pour ça qu'on a maintenant des bourgeoisies locales, chinoises, etc., dans ces pays du Sud, on le retrouve au Brésil, qui exploitent aussi leur population sous une forme capitaliste. Et donc on a encore quelques belles années à vivre d'exploitation maximum, pour l'ensemble de la planète. Mais on va arriver à un stade où, effectivement, le rapport entre 70-30 va devenir très tendu. Et c'est ce qu'explique Piketty. Et là, ça risque d'exploser, mais à l'échelle mondiale.
Oui, surtout qu'il y a quand même, il y a aussi une crise écologique majeure qui s'annonce. Il y a une crise énergétique majeure qui s'annonce. Absolument. Parce qu'il faudra bien mettre les centrales nucléaires à la retraite. Ouais. Et j'aimerais bien savoir où est-ce qu'on va trouver l'argent pour démanteler ces engins. Entre autres,
les crises sont multiples, c'est-à-dire que la crise, elle va d'abord être financière, parce que financièrement, cette masse de profits qui arrive avec l'ouverture d'une population énorme d'exploités, s'il y a eu des spéculations financières, c'est parce qu'effectivement, les profits des firmes au niveau mondial ont explosé. On ne passe pas impunément d'un système où on est à 80-20, à un système où on est à 70-30, mais sur une population bien plus importante qu'avant. Donc la masse elle-même des profits s'était énormément augmenté au niveau mondial. Et cette masse a permis d'accumuler une capacité de spéculation énorme, ce qu'on a vu. Spéculation surtout d'ailleurs, spéculation surtout sur les terres, on va en parler, sur les matières de base, sur l'habitat, sur l'ensemble des produits et sur l'ensemble des services. La finance gère tout ça, et bien évidemment, après, c'est des jeux de financiers qui essayent d'équilibrer ça pour gagner de plus en plus d'argent, fictivement. Mais ce qui est distribué, c'est la masse des profits. Même si on spécule avec des augmentations à l'infini de la finance, la masse des profits reste identique, globalement, au niveau mondial. C'est la masse des travailleurs qui est exploitée. Donc, sauf à en rajouter, en réel, sauf à en rajouter tout le temps, alors on en rajoute encore, parce qu'il y a une partie de la population chinoise qui n'est pas aux normes capitalistes, il y a une partie de la population brésilienne qui n'est pas aux normes capitalistes. Donc, ceux-là, ce sont des gens qui fonctionnaient comme notre paysannerie avant. Mais au fur et à mesure qu'ils sont intégrés, la masse de gens exploités sous une forme capitaliste, donc avec un contrat capitaliste libre, librement consenti, etc., augmente. Celle-là, elle va se terminer un jour, c'est en train de se faire, les gens sont intégrés progressivement au système mondial, et donc on aura bien, à un moment donné, une explosion qui va se produire, parce que les gens qui sont exploités comme ça, ils ne pourront pas indéfiniment vivre avec des salaires qui tendent à diminuer, ou des salaires qui ne permettent pas de vivre, tout simplement. Donc on est bien dans un système qui est potentiellement en train d'exploser dans tous les niveaux. Alors il va se rajouter à ça, effectivement, la crise écologique. On sait depuis très longtemps qu'on ne peut pas avoir notre type de consommation occidentale généralisée à l'ensemble de la planète.
Déjà, plus un tas d'autres choses. La pollution chimique,
c'est incroyable. Ça, c'est évident. La transition énergétique, c'est la même chose. C'est-à-dire que si on ne la commence pas maintenant, et elle aurait déjà dû commencer depuis 15-20 ans, ça va exploser.
On ne peut pas investir à la bourse et... Dans le renouvellement des énergies.
C'est évident. Ouais. Et en plus, quand on regarde dans quel type de reconversion on va, il ne faut pas oublier qu'un certain nombre de produits dits écologiques, les éoliennes, etc., demandent énormément de matière, etc., etc. Donc des matières rares, ainsi de suite. Donc on est sur des systèmes où il faut bien faire attention à ce qui est véritablement renouvelable ou ce qui est un substitut non renouvelable à des matières premières qui, elles, s'épuisent de toute façon. Le pétrole, ça sera épuisé bientôt. On parle du gaz de schiste, mais il y avait un article
ça
très...
Ça détruit tout, de toute façon.
Et c'est même pas ça. Il y avait des articles qui ont été publiés récemment sur les expériences menées en Pologne, justement. Et Total a abandonné la Pologne. Les Américains ont abandonné la Pologne, alors qu'ils avaient fait des espoirs, et des espoirs immenses. On avait cité la Pologne plusieurs fois comme étant le pays exemplaire à suivre pour le gaz de schiste. J'ai jamais entendu un journaliste parler de ça depuis.
Voilà.
Et au contraire, on est en train de nous remettre une louche ici pour commencer l'exploitation des gaz de schiste en France, soi-disant sous une forme expérimentale.
Ouais, mais ça ne marche pas. Je veux dire, aux États-Unis, ils en ont. Bon, ça. Je veux dire, ils produisent une quantité énorme d'énergie à partir de gaz ou de pétrole de schiste, mais c'est pour un temps très court.
Bien sûr.
C'est donc la course au forage.
Voilà.
Il faut en faire plus. Et là aussi, c'est comme une spéculation.
Et en plus, c'est une spéculation qui est dangereuse parce que ça exige aussi des investissements, ça mange du capital. Donc le problème, c'est la baisse tendancielle du taux de profit cher à Marx qui arrive là.
Voilà.
Ils sont en train de s'en apercevoir et donc on cherche à faire en sorte que les profits mondiaux, souvent produits dans les pays du Sud, justement, reviennent vers nous d'une façon ou d'une autre. Parce que ça revient soit par les investissements qu'on fait directement à l'étranger, soit ça revient par le prix très bas des produits qu'on achète aux pays du Sud. Il n'y a pas de secret. Le taux d'exploitation des pays du Sud permet de nous nourrir encore à des prix pas très élevés et permet d'exploiter les agriculteurs, permet en même temps, chez nous par exemple, de faire une agriculture industrielle totalement destructrice de l'environnement, etc. etc. Donc la politique agricole commune qu'on mène, les fameux systèmes qu'on va mettre en place entre l'Amérique latine, l'Amérique du Nord et le système d'échange européen, c'est la catastrophe annoncée.
Voilà, est annoncée. Hein? Donc très bon article de Suzanne Georges dans Ciné Mensuel.
Oui, absolument.
Tu as utilisé une expression... Les firmes chinoises, les grandes firmes chinoises liées au pouvoir. Mais oui. En France, c'est la même chose.
Ah bon,
je veux dire, c'est toutes les firmes...
C'est évident, il n'y a que France...
Mais on le dit souvent, oui. des Chinois, des Russes...
Oui, ce qui m'amuse beaucoup.
Mais bon, ça m'amuse... Bah, alors qu'en France, Marcel Dassault aussi n'est pas lié au pouvoir.
Par exemple.
Il n'y a presque qu'un seul client, là, l'État français.
Non mais, ça renvoie à des publications qui ont été faites tout à fait récemment après le passage sur la chaîne publique LCP des nouveaux chiens de garde. Du film de Balbas, où il disait, lui, il a enfin pu faire passer son film, c'est la chaîne parlementaire, c'est quand même relativement confidentiel.
Oui, exactement.
Donc, on ne va pas faire la révolution avec ça, mais au moins, c'est déjà passé une fois. Ce qui donne l'excuse au service public de dire, vous voyez, nous, on donne...
C'est passé.
Hein, donc, vous n'avez quand même pas à vous plaindre. Mais sauf qu'après, il y avait trois grands champions du libéralisme qui ont passé leur temps à descendre le film, notamment le très grand économiste Eli Cohen, bien connu, François-Olivier Gisbert, qui lui est bien connu, et Dominique Volton. Gilles Balblas-Rizé, Eli Cohen, surnommé le pantouflard des conseils d'administration. On voit avec qui il bosse, quoi. Je veux dire, il est chez EDF Énergie Nouvelle, Steria, etc. etc. Il touche des jetons de présence à 107 000 euros. C'est un économiste tout à fait indépendant. D'ailleurs, il s'avoue lui-même libéral, hein, c'est clair. Donc, François-Olivier Gisbert. Après son passage à l'Observateur, il était encore de gauche. Après, il passait au Figaro, je crois, maintenant. Enfin, je sais plus. Bon, il va un peu partout, là où la soupe est bonne, en fait. Hein. Donc, il n'y a pas de souci. Et lui, il fait le congrès des notaires, le congrès des experts comptables, la boulangerie, etc. Donc, il fait un petit peu de tout. Il fait des ménages dans tous les coins, donc il n'y a pas de souci. Et Volton, c'est la même chose. Lui, il est... patron d'une fiche agency expert où ils font des ménages pour tout le monde. Donc ce sont des gens qui n'ont pas du tout aimé le film de Balbas et qui disent que c'est quand même quelque chose d'orienté incroyable.
Ils font de la politique.
Ils font de la politique.
C'est extraordinaire.
Ils se sont jamais aperçus que l'économie était
politique.
Donc, être critiqué par ces gens-là, c'est quelque chose de bien, je trouve, parce que ça en dit long sur le système. Oui.
Ces gens-là parlent beaucoup d'une république théorique, mais quand on voit les pratiques réelles de dirigeants politiques français, mais comme dans d'autres pays, on peut faire une petite liste. Trafic d'influence, abus de faiblesse, favoritisme, escroquerie en bande organisée, corruption, enrichissement personnel, conflit d'intérêts, népotisme, malversation, fraude en tout genre, achat de voix. Le vocabulaire est très riche. Oui, et c'est pas.
On a que l'embarras du choix pour trouver.
L'épisode de M. Aquileno Morel, conseiller de François Hollande, ami de Jospin, de Valls, de Montebourg, bon, l'homme qui faisait cirer ses 30 paires de chaussures.
Il y en avait quand même beaucoup, donc il ne pouvait pas les cirer tout seul, ce brave homme. Il lui fallait bien quelqu'un.
C'est vrai que.
Là, on arrive quand même à des sommets.
Le chauffeur officiel, les secrétaires de l'Élysée pour ses affaires personnelles. Et pendant ce temps-là, je travaille pour les laboratoires pharmaceutiques. C'est pas mal. Et d'ailleurs, extraordinaire, c'est le laboratoire Pfizer, si mes souvenirs sont clairs, qui va racheter un de ses concurrents, donc pour 100 milliards d'euros. C'est hallucinant. Je veux dire, cet argent qu'ont payé les malades, il sert à rien.
À rien.
C'est parce de la destruction de capital. Je te rachète, tu me rachètes, c'est de la destruction de capital.
Parce que contrairement à ce qu'on raconte, moi j'entends toujours... dire dans les opérations, comme on est en train de faire sur Alstom, etc., que c'est pour pouvoir avoir davantage de capitaux pour faire des investissements. Mais c'est une vaste plaisanterie aussi, ça.
C'est un investissement à la bourse.
C'est un investissement en bourse qui ne rapporte rien. Au contraire, c'est de l'argent qui a été réalisé avec des profits industriels qui sert ensuite à acheter une société au point de vue financier des titres. Mais les titres, ils existent déjà, ils n'apportent aucun centime de plus à l'entreprise qui est rachetée. Et au contraire, ils utilisent de l'argent dans l'entreprise qui rachète, qui devrait être plutôt utilisé pour acheter des matériels, pour acheter des choses comme ça, et développer véritablement ce qui est nécessaire aux gens. S'ils veulent véritablement investir, le General Electric, etc., ils n'ont qu'à investir dans l'innovation que leur proposent leurs chercheurs, dans les nouvelles technologies dont on parlait tout à l'heure, etc. Au lieu de ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent cet argent pour acheter un concurrent. Ça veut dire quoi, ça?
Aucune finalité.
Si, la course à la puissance, point barre. C'est une course à la puissance, à la grande taille, etc., à être dans les champions multinationaux qui vont se permettre ensuite de se partager ce dont on parlait, c'est-à-dire le profit mondial. Ce qui est en question en ce moment, c'est le profit mondial. Et pour gagner le profit mondial, donc y compris chez les Chinois, les Brésiliens, etc., etc., chez les Russes, parce que les Russes sont logés à la même enseigne, on est bien obligé d'avoir une taille qui conforte ça. Et donc, ces grands PDG se rencontrent régulièrement, etc., et font en sorte que ça fonctionne bien pour eux. Pas pour leur peuple. Leur peuple, ils se contentent des miettes.
Leurs clients. Pour leurs clients.
Et donc, quand on regarde...
Ça n'a rien à foutre, les clients. Plus une boisse est grosse, plus ça merde.
Ouais, quand on regarde, par exemple, la critique par la Commission de Bruxelles du dernier plan, le fameux pacte proposé par M. Hollande, on voit quoi? Qu'est-ce que prévoit pour la France la Commission? Elle prévoit un taux de croissance, on en parlait tout à l'heure, qui allait un petit peu remonter, donc il y a un petit espoir, 0,2% en 2013, 1% en 2014, 1,5% en 2015.
La prière, ça peut être
donc,
efficace.
Donc, prions. Et on sait que quand on est dans un système où le PIB, il peut n'augmenter que de deux façons, soit par ce qui est consommation interne, soit par les exportations. C'est soit ce qu'on exporte qui augmente beaucoup, soit ce qu'on consomme en interne. Ce qu'on consomme en interne, c'est deux choses. La consommation des ménages ou l'investissement. Or, qu'est-ce qu'il prévoit? Pour l'investissement, il ne va pas augmenter du tout, contrairement à ce qu'on dit. Le fameux investissement dont on parle pour les firmes qui doivent gagner plus d'argent pour investir. Les investissements, c'est quoi les investissements? Gross Fixed Capital Formation, les investissements. Taux de croissance, ah bon, il est où là? Moins 2,3, 1,3,8, moins 2,4. C'est quoi ces histoires? Où sont les fameux investissements de demain qui arrivent avec les profits, avec le CICE et avec le pacte? Il ne prévoit pas du tout de gros investissements pour les années à venir. La consommation. Alors, la consommation privée, là, ça va être encore ceinture, parce que 0,3% en 2013, 0,6% en 2014. Donc, 2014, vous êtes déjà plié, donc il n'y a pas de souci. Alors que l'inflation, elle est quand même au niveau du taux d'inflation, à 0 et des poussières supérieures. Ce qui fait que le salaire réel des gens, écoute-moi bien, le salaire réel des gens, ça va être quoi? 0% en 2013, l'augmentation des rémunérations, moins 0,7% en 2014, donc qui prévoit déjà une diminution du coût horaire et de ce que vont toucher les salariés, et ça sera encore moins 0,6%.
Donc la consommation va diminuer.
On est bien sur le coût réel de la main-d'œuvre prévu par l'Europe. Je conseille à tout le monde, page 65 du schéma de la Commission européenne pour les deux pages consacrées à la France. Donc on est avec... Attendez, taux de chômage pendant ce temps-là, on disait tout à l'heure, 10,3 en 2013, 10,4 en 2014, et ça restera 10,2 en 2015. Malgré la baisse du coût réel du travail. C'est absolument incroyable. Et pendant ce temps-là, est-ce qu'on va avoir des gros efforts qui sont faits pour la structure budgétaire? Bon, on sera toujours à moins 3%, moins 2%, moins 2%. Donc l'Europe va nous imposer le passage en dessous des 3% du traité de Maastricht. Elle est en train de le faire. Mais en nous serrant la ceinture, et ceux qui vont payer, ce sont les salariés.
Voilà, les salariés et à peu près donc, tout le monde, parce que les retraites, elles n'augmentent pas.
Absolument.
Plus.
Et la consommation, privée, sur une base de 1,5% de croissance, elle ne sera que de 1,2% prévue en 2015. Donc la consommation privée, bien entendu, va augmenter beaucoup moins rapidement que la richesse créée. Et donc dans ces conditions-là, bien évidemment, les gens vont continuer à se serrer la ceinture. C'est ce que nous prévoit l'Europe. Voter européen. Donc on n'était pas d'accord tout à l'heure sur le point « il faut voter ou pas ». Je pense que oui. Mais il faut voter véritablement sur des gens qui sont sur des positions qui permettent d'avoir une vue critique du système européen et qui permettent éventuellement de changer. Alors... Je suppose que ton argument...
Ils n'ont aucun pouvoir, ces gens. Ils n'ont aucun pouvoir. Le référendum...
Je suis bien d'accord avec toi. On avait voté contre, je pense, ce fameux traité qui donnait effectivement une constitution à l'Europe, parce qu'il n'y avait pas de social dedans, parce qu'il y avait des pouvoirs qui étaient donnés à des gens qui ne sont pas élus, etc., etc. On le voit bien avec les membres de la commission qui sont payés très cher.
On voit le résultat que ça a donné.
On voit très bien le résultat que ça a donné. Tu as raison là-dessus, ça c'est clair.
On ne doit pas légitimer cette Union européenne de brun.
Oui, je sais bien, mais bon, on est quand même sur un système où on a le droit de vote. Il y a encore des tas de pays qui n'ont pas de droit de voter et qui essayent de se battre aussi pour l'avoir. On le voit bien. Donc ça, c'est un acquis fondamental des révolutions antérieures. Moi, je vais encore voter uniquement à cause de ça. Je ne vote pas. Et je crois que je suis... Ouais,
on n'a plus de candidat.
Je te suis là-dessus. Voilà, suis là-dessus. C'est clair que ça ne changera pas.
Pour moi, la plupart des partis qui présentent des candidats aux élections européennes, c'est uniquement pour toucher... pour avoir des rentrées financières.
Oui, on est d'accord.
Et ils ne font aucun boulot. De toute façon, c'est les lobbyistes qui commandent à Bruxelles. Il y a un excellent site là-dessus. Il est sur le site de Radio Campus Lille. La démocratie, ils s'en foutent. Ils justifient justement le côté démocratique ces élections. Les présidents de la Commission européenne, un des membres qui se présente, c'est Juncker. Premier ministre d'un État...
Luxembourgeois.
Luxembourgeois, donc d'un paradis fiscal. Ouais. On ne doit pas légitimer ce genre de choses.
C'est important quand même de savoir, si tu veux, le problème de fond par rapport à ça, c'est... On a encore la possibilité de voter. On a encore. Donc il ne faut pas laisser ça à tous ces gens qui croient que... Alors c'est vrai que ça ne va pas changer grand-chose, je suis d'accord avec toi, et qu'on se fait rouler dans la farine. Mais bon... Au moins, ils n'auront pas l'excuse de dire, parce que c'est ce qu'ils sont en train d'essayer d'utiliser à fond, vous n'allez pas voter. C'est votre faute.
Est-ce que vous votez pour votre patron dans l'entreprise? Non.
Alors, c'est le grand thème de la liberté qui est utilisé par le capitalisme. La liberté de se faire exploiter. La liberté d'aller voter pour des gens qui disent tous la même chose. On est bien d'accord. C'est-à-dire que le passage du féodalisme au capitalisme, dont on parlait dans les pays du Sud, là, c'était ça. Les gens qui étaient dans les pays du Sud, ils étaient, au moins quand ils étaient sous un régime communiste, ils savaient qu'ils avaient bossé pour tel truc, point barre. Maintenant, ils sont libres d'aller travailler ou pas pour une entreprise. Un contrat de travail, c'est ça, t'es libre d'y aller ou pas. Sauf que si t'as pas de contrat de travail, tu bouffes pas, et que, bien évidemment, si tu manges pas, tu meurs. Donc on est obligé de passer par l'idée de la liberté. La bourgeoisie, son grand combat qu'elle a mené à partir de 1789 et du 19e siècle, c'est ça. C'était libérer la force de travail des méchants féodaux. Comme ça, le salarié était libre de se faire exploiter par eux. Et on continue avec ça au niveau mondial, maintenant. Donc,
Monsieur Lamy a permis au niveau mondial de faire accéder à une masse de population.
À libérer beaucoup de gens.
À libérer énormément de gens. Alors, je ne sais pas si ça sera quand même le point de vue des Chinois, parce que les salariés chinois, la liberté, on peut en parler. Hein, mais...
Il nous reste encore à peu près une minute.
Ouais.
Remarquons qu'en France, si on installe des caméras partout, donc il n'y a plus de policiers pour voir dans les rues si on vole votre voiture.
Mais ils voient sur les
grévistes, ils sont très forts.
Ils sont très forts, absolument.
Il nous reste à peu près une minute. Vous écoutez Radio Campus Lille. Pour ce qui est du vote aux élections européennes, il y a quelques émissions sur le site www.campuslille.com. N'hésitez pas à aller le consulter. Il y en a une, c'est voter ou boycotter les élections européennes. Hein, faites une recherche sur Radio Campus Lille, voter ou boycotter les élections européennes. Il y aura aussi une émission demain, 8 mai à 15h, si d'après mes souvenirs, avec quelques militants d'un parti politique qui viennent nous entretenir sur le sujet. Alors, il nous reste à peu près une minute, Benoît. Je ne sais pas, en conclusion, qu'est-ce qui va encore nous tomber dessus?
Voilà, le problème, c'est qu'on sait malheureusement ce qui va encore nous tomber dessus.
Voilà.
Le pacte, c'est des impôts supplémentaires pour tout le monde. C'est un pouvoir d'achat qui va baisser. On vient de le voir. Hein. Les prévisions européennes sont claires, nettes, précises. Donc ne comptez pas sur l'Europe pour vous apporter davantage de pouvoir d'achat. Et ils ont bien empiété sur le pouvoir d'achat de plein de pays. Et donc, effectivement, après, le reste, c'est... S'il y avait véritablement des gens véritablement de gauche qui se déclaraient au niveau européen, bon, ça pourrait marcher, mais
oui.
Bon, on peut rêver.
Après, rêvons, parce qu'il y a certains pays où les directives européennes ne sont pas appliquées, par exemple l'Allemagne. Et curieusement parlant, en France, on est plus royaliste que le roi, on utilise...
C'est très bien que la France a toujours été un bon élève.
Pouvoir,
absolument.
Hein.
Ce sont les mêmes.
Je vais passer une chanson, j'avais préparé des petites choses humoristiques, mais... On va pas avoir le temps de les passer. Elle arrive. Alors, Netché, rendez-nous l'argent. Ceci dit, vous écoutiez LBCE, les bons calculs économiques. À bientôt. Donc, c'est le premier mercredi du mois.
Absolument.
À 12h.
À bientôt.
Au revoir.
Rendez-nous l'argent. Rendez-nous l'argent. Rendez-nous l'argent.
So give it back, man.
Rendez-nous l'argent.
Rendez-nous l'argent.
Rendez-nous l'argent.
Give us the money back.
Rendez-nous
l'argent. We need it back.
Rendez-nous l'argent.
That. Rendez-nous l'argent.
Rendez-nous l'argent.
Christopher Columbus landed in the Andes. Golden body took and gave the truth in with the penny. All they took, they claimed to bring. All the crooks forgot and bling. All they stole and sold and lied and told us anything.
Mais qui fait semblant de croire à ce temps? La neige est-elle en plastique ou du pain blanc? Il n'y a pas eu de réplique, cela devient inquiétant. Et les jours aussi, les soucis, c'est l'État qui demande des comptes. Les autorités, juges, procureurs, les éléments sont précis. Il y a des auditions, il y a des comportements, il y a des éléments nouveaux ce matin, au jour qui se lève, pour qui s'hérisse, face à l'enquête, les risques et les limites. Les documents se rendent sur place, la place. La vérité soutenue par les représentants. Le jour qui se lève, le voile qui se lève. La neige qui recouvre l'hiver, d'un décembre à la mer. Les slogans, les rêves, les gens parlent, les gens hurlent. Les soutiens sont très efficaces. Il a été clairement demandé, il a été clairement dit, il a été clairement entendu. Le doute, le terrain vague, l'horizon bouché comme suspendu au vent d'une feuille qui vole. Encore faut-il se corrompre au bon moment. Rendez-nous l'argent. Rendez-nous l'argent, rendez-nous l'argent, rendez l'argent. Rendez-nous l'argent. Rendez-nous l'argent. Rendez-nous l'argent. Rendez l'argent. Rendez-nous 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 l'argent.
My money's been, see, you easily looking down at me like you think you on the pedestal, see, it's time I chop your tree, it's time I cut your tree, I don't care if you from Brest, I'm not saying not Rochelle or the rest, Bristol, Liverpool, you go down, Bristol, hear my money sound, coming at you hard like a small axe, bring down the tree and be satisfied, all the way with my own facts, gonna get that shit like it's just the action.
Rendez l'argent, rendez l'argent,
rendez l'argent.
sang. Bring it back.